Nous sommes le mercredi 3 avril 2019, sans transition. Voici les faits majeurs. Réchauffement des relations entre les parlements français et ivoiriens. Des membres du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire échangent avec le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est ensuite entretenu avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Gabon. Présidentielle de 2020, l'Union africaine fait des recommandations au PDCI-RDA pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Joséphine Charlotte Mayoumakala a échangé hier avec Henri Conan Bédier. Elle appelle aussi tous les acteurs politiques du pays à œuvrer pour des scrutins sans violence. De la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, il en sera question au cours de ce journal avec un analyste politique et spécialiste des questions africaines, le professeur Christian Bouquet, est l'invité de la rédaction. Actualité en Algérie, le pays se réveille sans son président pour la première fois en 20 ans. Hier, Abdelaziz Bouteflika a remis sa lettre de démission au Conseil constitutionnel et au président du Sénat. À suivre encore dans ce journal, la revue des titres de vos quotidiens, ce sera avec Brooke Onamberta. Bonjour à tous. Ce journal s'ouvre sur la vie des institutions. Le président de l'Assemblée nationale a rencontré hier le groupe parlementaire d'amitié France-Côte d'Ivoire, puis le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Gabon, par ailleurs président du réseau africain des personnels des parlements, et cela 24 heures après l'ouverture solennelle de la session ordinaire 2019 de la Chambre basse, la première chambre du Parlement ivoirien. Jean-Claude Mabéa pour plus de précisions.
C'est le groupe parlementaire d'amitié France-Côte d'Ivoire, conduit par la députée des Yvelines, Marie Lebec, qui a été reçue en premier ce mardi en début d'après-midi par le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Marie Lebec à sa sortie d'audience.
C'était un moment important pour nous, puisque après 3 décennies sans relations parlementaires entre la France et la Côte d'Ivoire, du fait des relations très fortes entre les différents présidents, nous renouons aujourd'hui avec ces relations parlementaires et donc nous avons réaffirmé au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire notre volonté de pérenniser ces relations dans le temps. C'est quelque chose auquel très peu de parlementaires français avaient certainement eu la chance d'assister, et ça nous a permis aussi de voir qu'il y avait un certain nombre de similitudes entre nos deux assemblées. Même si nous avons beaucoup plus de parlementaires en France, on voit bien que le fonctionnement est le même, et ça nous permet effectivement d'envisager une coopération approfondie, de pouvoir comparer nos méthodes de travail, notamment dans le fait de faire la loi, mais aussi dans le contrôle de l'action du gouvernement.
Le président de l'Assemblée nationale a ensuite échangé avec le président du réseau africain des personnels des parlements, Brice Paya.
Monsieur le président de l'Assemblée nationale a bien voulu nous recevoir. Nous lui avons présenté cette structure qui vise le renforcement des capacités opérationnelles des administrations parlementaires africaines. Pour l'instant, c'est une association qui regroupe 18 pays d'Afrique francophone. Abidjan, accueillant le siège de ce réseau, monsieur le président, nous a promis qu'il ferait tout dans la limite des moyens disponibles pour soutenir les activités de ce réseau.
Signalons que les hôtes du président de l'Assemblée nationale ont pris part à l'ouverture officielle de la session parlementaire qui a eu lieu 24 heures avant.
Et hier également, en fin de matinée à Abidjan, le président du PDCI-RDA a échangé avec la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Les deux personnalités, Henri Conan Bédier et Joséphine Charlotte Mayoumakala, ont évoqué la situation politique qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire. Joséphine Charlotte Mayoumakala appelle aussi les acteurs politiques du pays à œuvrer pour des élections apaisées. Et cette visite s'inscrit selon elle dans le cadre de la mission de l'Union africaine qui vise à accompagner chaque État membre à œuvrer et à consolider la paix, mais surtout la stabilité dans les pays africains. Cette visite d'échange va s'étendre aux autres partis politiques et à la société civile, a indiqué la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine. Dans l'univers de la presse et des médias, la communauté des directeurs de publication de Côte d'Ivoire était les 30 et 31 mars dernier en séminaire à Grand Bassam. La rencontre a porté sur le thème suivant: les directeurs de publication face aux défis de l'information apaisée. Retour sur le bien fondé du dit séminaire avec Charles Lambert Trabi, le président du Ford PCI, le forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire.
Nous avons estimé qu'il était bon que ceux-là même qui ont en charge le contenu des journaux, ceux-là même qui guident donc les journaux, de se retrouver à une formation afin d'apprendre comment écrire dans le sens de l'apaisement dans notre pays. C'est pour nous notre façon de dire aux directeurs de publication de Côte d'Ivoire et à l'ensemble des journalistes qu'on peut écrire tout, mais avec des termes apaisés. On peut écrire tout, mais avec un sens de la responsabilité. De sorte à ne pas mettre de l'huile, comme on le dit, sur le feu. Parce que depuis longtemps, les journalistes ont été désignés en Côte d'Ivoire comme ceux-là même qui mettaient de l'huile sur le feu. Nous voulons donc former nos directeurs de publication à l'effet d'être utiles à l'information apaisée dont le pays a besoin véritablement. Et donc, les 30 et 31 mars dernier, nous avons donc organisé ce séminaire-là à l'intention donc de tous les directeurs de publication de Côte d'Ivoire qui avaient pour thème les directeurs de publication face au défi de l'information apaisée. Et les échanges ont été fructueux. Et je pense que cette formation peut avoir des effets positifs sur nos écrits aujourd'hui. Nous souhaitons que les effets de cette formation soient immédiats. La plupart, on va dire, de nos journaux sont adossés à des partis politiques. On peut être adossé à un parti politique et faire le journalisme. Faire son travail de façon responsable et professionnelle. Nous insistons sur le thème de façon responsable et professionnelle. On peut vendre un journal avec ça, sans forcément détruire le pays.
Et Charles Lambert-Trabi, président du Ford PCI, le forum des directeurs de publication de Côte d'Ivoire. Lutte contre la cybercriminalité, les plaintes contre les crimes numériques ont augmenté de 58%, ce qui correspond à 2860 plaintes pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort notamment du rapport de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, rapport présenté lundi dans les locaux de l'autorité de régulation des technologies de l'information et de la communication. Kwame Philippe est le directeur de la confiance numérique et la sécurité des réseaux et systèmes d'information à la RTCI. Il revient sur certains aspects de ce rapport.
La RTCI a signé une convention depuis 2011 avec la Direction générale de la police nationale qui crée la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé PLCC. Donc depuis 2011, on a commencé une lutte conjointe contre la cybercriminalité. Ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, les chiffres au niveau de la cybercriminalité sont en baisse. Mais en même temps, les déclarations d'actes de cybercriminalité sont en hausse au niveau de la PLCC. Pour la simple et bonne raison que les populations ont pris confiance en la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité et donc sont beaucoup plus aptes à aller dénoncer les actes de cybercriminalité dont elles sont victimes. Alors selon les rapports, on parle d'une augmentation d'à peu près 58% par rapport à 2011.
À combien est évalué donc le préjudice en référence à ce pourcentage que vous relevez?
On a parlé de 5 milliards à peu près en termes de préjudice.
Si cette action est menée et qu'il y a une certaine baisse, pourquoi ces cybercriminels réussissent toujours donc à gruger les populations?
C'est la mésinformation et la part du gain.
C'était Kwame Philippe, directeur de la confiance numérique et la sécurité des réseaux et systèmes d'information à l'ARTCI, l'autorité de régulation des technologies de l'information et de la communication. Kwame Philippe a été joint par Jean-Claude Comi. Délégation composée de responsables du ministère de l'Éducation nationale et des partenaires du système éducatif a fait une visite, a effectué une visite terrain à Soumaoro Dougou, village situé à 5 km de Touy. Depuis 3 mois, ce village accueille la phase pilote du projet d'enseignement ciblé. Cette visite vise donc à s'enquérir de l'état d'avancement de ce programme qui est une nouvelle méthode d'apprentissage pilotée dans les zones productrices de cacao. Les détails dans cette correspondance de Kofi Benson.
Le PEC, le projet d'enseignement ciblé, est le fruit des chercheurs indiens pour l'amélioration de l'éducation des enfants. Et l'expérimenté en Côte d'Ivoire vise à donner une réponse à la qualité de l'apprentissage, selon Sabrina Vigani, coordonnatrice du programme TREC, entendez transformer l'éducation dans les communautés de cacao.
Nous avons aujourd'hui un problème au niveau de la qualité de l'éducation. Les enfants vont à l'école, mais ils n'apprennent pas, ils ne sont pas au niveau qu'ils sont censés être. On a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes à lire. Lire ne serait-ce qu'un mot. Et donc, nous avons décidé de nous attaquer à ce défi-là en particulier.
Quelques caractéristiques du PEC avec Nda Félix, conseiller pédagogique du préscolaire et scolaire à Tui.
Toutes les activités que nous menons sont à base de jeux. Quand l'enseignement se fait à partir de jeux, ça permet à l'enfant de s'intéresser à ce qu'on fait.
Pour Brahima Kourouma, coordonnateur général de l'inspection générale de l'éducation nationale, le constat fait est rassurant.
Je suis émerveillé de voir d'abord à deux niveaux qu'il y a beaucoup de progrès réalisés. Les enfants qu'on a réunis, CE1, CE2, CM1 confondus, et qui lisent aussi parfaitement des textes. Je ne suis pas contenté de regarder les textes que l'enseignant présentait. Je suis allé proposer moi-même un autre texte pour vérifier s'ils savent lire. Et ils l'ont lu. Quand les enfants ne savent pas faire les mathématiques, c'est parce qu'ils ne savent pas lire. C'est parce que ce qu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Mais dès le moment où ils sauront lire et écrire, ils vont mieux comprendre les mathématiques. C'est lié.
Kofi Benson, de retour de Tui, Radio de la Paix.
Nous sommes en avril et c'est bientôt la saison des pluies. Elle a même commencé hier, il a plu, la pluie est tombée. En prélude aux différentes périodes et pour éviter les drames, puis les dégâts matériels causés par les pluies diluviennes, le ministère de l'assainissement et de la salubrité ainsi que l'Office national de l'assainissement et du drainage ont dans un communiqué invité l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien à adopter les bons gestes. Là-dessus, voici les conseils du président de l'ONG Initiative pour le développement durable. On écoute les explications d'Amara Karamoukou.
D'abord, il faut déjà penser à couper l'électricité et n'utiliser aucun matériel électrique. Ne pas permettre aux enfants de sortir, surtout quand ils sont seuls. Il ne faut pas utiliser des voitures dans des zones inondées. Il faut mettre les papiers importants à l'abri, fermer les poubelles et les sacs et les mettre en hauteur, mettre à l'abri surtout les produits chimiques, les produits d'entretien et les médicaments qui sont susceptibles donc de contamination et de pollution. Ensuite, nous avons les souris et les rats qui fuient l'eau, il ne faut pas les toucher, éviter de boire l'eau du robinet et privilégier donc les bouteilles d'eau minérale. Nous avons des caniveaux qui sont bouchés et les causes sont multiples et on les connaît. La construction des habitations sur les canalisations, nous demandons à l'État et aux collectivités locales de prendre les responsabilités, c'est-à-dire déjà énumérer toutes ces zones-là où il faut donc curer les caniveaux et passer à l'action avant que la saison de pluie ne commence. Nous demandons aux personnes qui habitent les zones à risque d'évacuer la zone en fonction des prévisions météo. Nous leur demandons également de sensibiliser leurs voisins et proches à le faire, de se mettre en sécurité et de porter secours seulement si les conditions y sont favorables pour ne pas eux-mêmes se mettre en danger.
Amara Karamoko, président de l'ONG Initiative pour le développement durable, j'ajoute qu'il faut faire vite, très vite, c'est urgent, il faut curer très rapidement les caniveaux car la saison des pluies se signale, elle arrive à grands pas. Direction l'Algérie, après un mois de contestation, le pays se réveille pour la première fois en 20 ans sans Abdelaziz Bouteflika à sa tête. Le chef de l'État a démissionné hier soir, quelques heures après avoir été défié par l'armée. Il a remis sa lettre à Tayeb Belaïz, président du Conseil constitutionnel, et en présence d'Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Nation, le Sénat, chargé par la Constitution d'assurer l'intérim durant une période maximale de 90 jours au cours de la laquelle une présidentielle doit être organisée, rapporte l'AFP. Et puis au Sénégal, le président a prêté serment hier pour un second mandat, promettant de poursuivre ses réformes en lançant un appel à un dialogue constructif avec l'opposition. Macky Sall a prêté serment devant les 7 membres du Conseil constitutionnel et en présence d'une vingtaine de ses pairs africains, rapporte l'AFP. Violence au Mali, un médecin militaire français, le capitaine Marc Leïkura, a été tué hier à la suite du déclenchement d'un engin explosif improvisé au passage de son véhicule blindé lors d'une opération de lutte contre les groupes armés terroristes. C'est ce qu'ont annoncé la présidence française et l'état-major des armées cité par l'agence France Presse. On enchaîne avec Brooke-Conan Bertin qui passe maintenant en revue les titres qui barrent les unes de vos journaux. Bienvenue Bertin.
Bonjour Marthe, bonjour à tous. La présidentielle 2020 avec en amont la question de la réforme de la commission électorale indépendante, sujet entre autres en une de certains journaux ce mercredi. On peut lire dans Le Patriote, présidentielle 2020, CEI, Ouattara rassure les Ivoiriens. Soir Info évoque présidentielle 2020, réforme de la CEI pour annoncer que Bédier et un émissaire de l'UA se sont dit des choses et que 37 organisations se braquent contre le gouvernement. Le Nouveau Réveil rapporte que, avant la présidentielle 2020, l'UA demande la révision et la réforme de la CEI, invitant à découvrir ce que la représentante de l'Union africaine a confié au président Bédier. hier. L'expression parlant plutôt de recomposition de la CEI pour proclamer que la commission de l'UA rejoint Ouattara. Pour cette présidentielle 2020, Le Jour Plus tente de justifier pourquoi le parrainage des candidatures s'impose, présentant tout sur le cas du Sénégal et ses avantages. Le Sénégal où Alassane Ouattara a pris part à l'investiture de Macky Sall affiche Fraternité Matin. Pour en revenir aux futures échéances électorales, le temps informe que le FPI met 205 fédéraux en ordre de bataille. Nouvelle génération sur la question de la candidature en 2020 révèle Ouattara enfin décidé. Dans la situation au FPI, cette déclaration de Jean-Yves Dibopieux, président de la SOAF, en une de notre voix, c'est honteux, la crise au FPI. L'Inter pointant une affaire possible alliance avec le RDR constate que la toile se déchaîne contre Assouadou, avant de relever que AFI donne les vraies raisons de la démission d'Agnès Monnet. Une autre affaire, c'est là, dans Soir Info, Royaume Baoulé, tout est mélangé. Prévenant sur ce qui risque de se passer les prochains jours, le quotidien d'Abidjan voyant le régime qui attaque le Royaume Baoulé après avoir divisé les partis politiques. Pour terminer, visite de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair qui déclare dans Fraternité Matin « Je suis content des progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ». Le rassemblement se réjouissant en ces termes, Tony Blair salue le leadership de Ouattara.
Brooke-Conan Bertin qui reviendra à 8h pour le même exercice. Place à présent à l'invité de la rédaction, la dernière articulation de cette session d'information. Il s'agit d'un analyste politique et spécialiste des questions africaines et observateur au quotidien de la scène politique ivoirienne. Le professeur Christian Bouquet est dit déplorer un déficit de sérénité en ce moment dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Et dans cet entretien mené par Soro Adams, il interpelle les Ivoiriens et surtout les acteurs politiques sur la nécessité de mettre le pays à l'abri des remous à moins de 2 ans de la présidentielle, un entretien que je vous invite à suivre immédiatement.
Bonjour professeur Christian Bouquet.
Bonjour monsieur Sorodams.
Au quotidien, vous observez l'arène politique de la Côte d'Ivoire. Que vous inspire cette arène en termes d'ambiance aujourd'hui?
Eh bien, comme vous le dites, je suis un observateur extérieur. Je regarde l'arène politique ivoirienne de la même manière que je regarde les arènes politiques de certains autres pays, Madagascar, le Mali, le Tchad, le Niger, des pays où je vais souvent. Sur la Côte d'Ivoire, mon impression première, c'est qu'une forme de recomposition politique semble se mettre en place avec un éparpillement des forces et la possibilité de voir une opposition croissante aux partis au pouvoir. Ça, c'est sur le fond. Et sur la forme, parce que je crois que c'est sur la forme que vous m'interrogez davantage. Je dirais que moi aussi, je suis étonné de voir ces interventions politiques, ces déclarations, ces discours, ces attaques, qui sont là encore essentiellement sur la forme et non pas sur le fond, alors qu'on serait probablement plus prêt à attendre des propositions de programme sur ce que on doit faire pour la Côte d'Ivoire, et en particulier propositions de programme émanant d'opposition, puisque le parti au pouvoir lui montre ce qu'il est capable de faire et ce qu'il a fait depuis bientôt 10 ans.
Côté de l'ancienne coalition au pouvoir, il y a de plus en plus de tensions entre ce qu'on pourrait appeler le camp Soro et le camp RHDP. Selon vous, le divorce est-il totalement consommé entre Guillaume Soro et ses alliés d'hier?
Dans ce genre de coalition, les mariages et les divorces ne sont jamais totalement consommés. Il n'y a jamais de position figée définitivement. On entend surtout des attaques émanant du camp Soro parce que probablement il y a des communicants qui sont plus offensifs, qui se font davantage entendre parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux. Pour autant, nous, en particulier moi qui suis un analyste politique, je n'arrive pas à mesurer le poids exact que ça peut représenter dans l'électorat. Or, pour le moment, c'est bien dans la perspective d'une élection, celle de 2020, que l'on se place. On ne peut pas tirer de conclusions dans une ambiance préélectorale, et en particulier tant qu'on ne sait pas comment pourront se recomposer les différentes forces dans cette arène politique, comme vous dites.
En ce qui concerne le débat autour de la commission électorale indépendante, la CEI, réforme pour certains, recomposition pour d'autres. Le point de vue du professeur Christian Bouquet.
En principe, une démocratie mature n'a pas besoin de commission électorale indépendante parce que les organisations politiques d'une part et les citoyens d'autre part sont parfaitement conscients de la manière dont fonctionne cette démocratie. Il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, on a depuis presque une vingtaine d'années mis en place une commission électorale qui n'inspire jamais confiance. Alors qu'elle soit mise en place par un camp ou par un autre, elle n'inspirera jamais confiance. Donc je crois qu'il faudrait se sortir de cette idée selon laquelle c'est la commission électorale qui dit les résultats et qui fait les résultats, parce que c'est pas vrai, hein. Ce sont les citoyens par leur vote qui font les résultats. Et je crois qu'il faudrait presque partir d'une idée un petit peu innovante, mais qui est celle selon laquelle chaque électeur est une commission électorale à lui tout seul, puisqu'il peut vérifier en restant toute la journée dans son bureau de vote la régularité des opérations, d'une part. Il peut ensuite vérifier les comptages et les résultats du soir et les procès-verbaux. Il peut même les photographier avec son smartphone s'il le souhaite. Et le jour où la commission publiera les résultats officiels, contrôler que ceux qui concernent son bureau de vote correspondent à ce que publie la commission électorale.
Professeur Christian Bouquet, il y a eu cette rencontre avortée entre Laurent Gbagbo et Pascal Afinguesan. Est-ce que l'unité du parti reste possible ?
Vous savez que c'est extrêmement compliqué dans un parti politique de déterminer une ligne et de s'y tenir. Il y a toujours forcément des oppositions internes qui peuvent soit s'organiser en courant interne sans menacer l'intégrité du parti, soit faire sécession. Donc là, on ne sait pas quel est le positionnement exact de M. Afinguesan et de la tendance plus dure du parti de Laurent Gbagbo.
Pour la Côte d'Ivoire et pour 2020, quels seraient vos souhaits ?
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le fonctionnement de la démocratie africaine en général et donc ivoirienne en particulier. Et je continue à rester sur ma faim parce que cette démocratie ne semble pas fonctionner comme on le souhaiterait, faute de sérénité. On en revient à ce que vous disiez au tout début, l'arène politique est très agitée, probablement trop agitée.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire ?
Que chacun retrouve ses esprits et se mette à travailler sur le fond, donc sur des programmes, sur des objectifs et non pas sur des attaques à dominem.
Je vous remercie, professeur Christian Bouquet.
Je vous en prie.
L'invité du jour est un analyste politique, spécialiste des questions africaines et observateur au quotidien de la scène politique ivoirienne. Il est aussi professeur émérite de géographie politique à l'université Bordeaux-Montaigne en France et chercheur à Sciences Po Bordeaux en France. Il se prêtait aux questions de Soro Adams. Avant de refermer ce journal, le rappel des points phares. Réchauffement des relations entre les parlements français et ivoiriens. Des membres du groupe d'amitié France-Côte d'Ivoire échangent avec le président de l'Assemblée nationale. Objectif, renforcer la coopération entre les deux institutions et permettre aux députés de travailler en synergie dans les domaines de la loi et du contrôle gouvernemental. Amadou Soumaoro, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, s'est également entretenu avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Gabon, par ailleurs président du réseau africain des personnels des parlements. Présidentielle de 2020, l'Union africaine fait des recommandations au PDCI-RDA pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Joséphine Charlotte Mayumakala, la représentante du président de la commission de l'UA, a échangé hier avec Henri Conan Bédiel, appelle aussi tous les autres acteurs politiques du pays à œuvrer pour des scrutins sans violence. Enfin, actualité en Algérie, le pays se réveille sans son président pour la première fois en 20 ans. Hier, Abdelaziz Bouteflika a remis sa lettre de démission au Conseil constitutionnel et au président du Sénat. C'est sûr, à 8h il y aura un journal. D'ici là, Guy Didier Bléa-Salé prendra le relais pour la suite de votre émission Les Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.